Bonjour.
Bonjour, désolé pour ce petit retard. Le secrétaire général va vous informer de la première session de cette réunion ministérielle. Ensuite, comme toujours, il répondra à vos questions, monsieur le secrétaire général.
Good afternoon. We have just...
Bonjour. Nous venons de terminer une réunion où les ministres de la Défense de l'OTAN ont débattu de l'adaptation de l'OTAN à un environnement sécuritaire de plus en plus exigeant. Jamais depuis la guerre froide n'avons-nous été confrontés à d'aussi grands défis quant à notre sécurité. Que ce soit l'Europe ou les États-Unis, personne ne peut gérer cela de manière esseulée. Notre alliance est particulièrement nécessaire aujourd'hui. L'OTAN est bonne pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord. Nous sommes tous plus en sécurité quand nous sommes à côté et aux côtés les uns des autres. Aujourd'hui, les ministres ont tous reconnu l'importance de la relation transatlantique et ce pour relever les défis clés qui pèsent sur notre sécurité. Je me réjouis du message clair du secrétaire à la Défense Mattis sur le partenariat transatlantique, mais également le message adressé par tous les autres alliés, à savoir que nous devons renforcer l'alliance en cette période de troubles. Depuis 2014, la posture de défense et de dissuasion de l'OTAN s'est grandement adaptée. Nous avons multiplié par trois la taille de la force de réaction de l'OTAN, et ce pour parvenir à 40 000 hommes. Nous avons créé un groupe à très haut niveau de préparation de 5 000 hommes prêts à intervenir en quelques jours. Et nous avons mis en place 8 états-majors plus petits, et ce, dans la partie est de notre alliance. Nous avons renforcé notre police du ciel, nos exercices, nos entraînements. Nous avons renforcé notre présence maritime. Nous avons redynamisé nos cyberdéfenses. Et alors même que nous nous parlons aujourd'hui, nous sommes en train de déployer 4 groupements tactiques multinationaux, et ce, dans les états baltes et en Pologne. Nous augmentons également notre présence dans la partie sud-est de l'Alliance. Donc notre posture de dissuasion et de défense est robuste. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'importance de maintenir cet effort dans le temps. Cela sera crucial. La défense, ce n'est pas seulement ce que l'on fait chez soi. Cela a trait également à ce qui se passe au-delà de nos frontières. C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord pour renforcer nos contributions à la projection de la stabilité, permettre aux forces locales de protéger leur pays et de lutter contre le terrorisme. Nous sommes partis d'une opération majeure de combat à une mission d'entraînement, de conseil et d'assistance en Afghanistan. Nous avons commencé à appuyer la coalition luttant contre Daesh grâce à la surveillance aérienne des AWACS. Nous avons mis en place un programme de renforcement capacitaire et d'entraînement en Irak. Nous avons renforcé notre soutien aux partenaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et nous avons ouvert un centre régional au Koweït avec nos partenaires dans le Golfe. Nous avons déployé des bâtiments en mer Égée pour aider à limiter l'afflux de migrants et de réfugiés. Et nous allons mettre en place un pôle régional pour le Sud à Naples. Et nous avons mis en place des paquets complets pour appuyer la Géorgie et l'Ukraine. Nous continuons d'être grandement présents dans la partie occidentale des Balkans afin de garantir la stabilité dans la région. Et nous travaillons de manière rapprochée avec l'Union européenne, bien plus que de par le passé. Mais nous sommes également d'accord pour dire que l'OTAN présente un potentiel non encore utilisé en matière d'entraînement des forces locales et de renforcement des capacités locales. Nous avons une expérience, nous avons des capacités éprouvées et testées, nous avons une réelle endurance et un réseau de 41 partenaires dans le monde entier prêts à nous aider et à travailler avec nous. Ainsi, nous avons débattu de comment mieux utiliser l'OTAN pour l'avenir. Tout cela, tous ces efforts doivent pouvoir être accompagnés de ressources à des niveaux adéquats et un juste partage du fardeau. En 2014, nous avons décidé d'arrêter les coupes en matière de dépenses de défense, augmenter progressivement et les dépenses et se rapprocher d'un 2%, 2% pardon, du PIB, et ce en 10 ans. Jusqu'ici, cela a bien fonctionné. En 2015, nous avons interrompu donc les coupes. En 2016, 22 alliés ont augmenté leur budget de défense. C'est substantiel. Et les chiffres que nous avons publiés hier démontrent une augmentation saine de 3,8% en termes réels, et ce, dans toute l'Europe et au Canada, lorsque l'on parle de dépenses de défense. Cela représente 10 milliards de dollars en plus pour la défense. Étape par étape, pas à pas, nous avançons dans la bonne direction. Mais le chemin est encore long. Et vous savez que le bilan est mitigé parfois. Certains alliés ont commencé à augmenter la cadence, d'autres peinent encore à augmenter leur budget de défense. Seuls 5 alliés respectent notre directive des 2% du PIB attribué à la défense. C'est pourquoi nous avons mené le débat sur la capacité à maintenir la dynamique et accélérer les efforts nationaux pour respecter nos engagements. Par exemple, par le biais de plans nationaux, par le biais de jalons, afin de garantir un progrès dans la stabilité et la constance. C'est quelque chose que nous lançons aujourd'hui et nous allons continuer d'en débattre. Et c'est un point qui sera abordé par les chefs d'État et de gouvernement lorsqu'ils se réuniront à Bruxelles au mois de mai. Notre objectif est de faire en sorte que notre ambition d'un juste partage du fardeau puisse être encore redynamisée lors de la réunion du mois de mai. Je suis prêt à entendre vos questions.
Monsieur le secrétaire général, secrétaire de la Défense Matisse a dit que le MERIC respectera ses responsabilités, mais si vous ne voulez pas que vos engagements soient atténués par les États-Unis, chaque capitale doit apporter son soutien pour la défense commune. Comment interprétez-vous cela? C'est une menace? Est-ce que vous percevez cela comme l'expression d'un soutien conditionnel de l'Amérique? Comment est-ce que vous interprétez cela?
Secrétaire Matisse.
Le secrétaire à la Défense Matisse a exprimé un fort engagement vis-à-vis de l'OTAN et du lien transatlantique, sans oublier l'importance de le renforcer encore. Et cela a été accueilli positivement à cette réunion parce que tous les autres ministres ont exprimé ce même engagement vis-à-vis du lien transatlantique. Nous comprenons tous que nous sommes plus en sécurité et plus forts tous ensemble. Une OTAN plus forte, c'est bon pour l'Europe, pour les États-Unis, pour le Canada. Surtout en des moments troublés, en des moments d'incertitude. Nous avons besoin d'un partenariat transatlantique fort et d'une OTAN forte. Et c'est bien là le message qu'il a envoyé. Mais il a également abordé la question d'un juste partage du fardeau et du fait que il y a des pays qui ne respectent pas cet objectif et qu'ils doivent augmenter leurs dépenses en matière de défense. Tous ceux qui se sont exprimés lors de la réunion ont grandement appuyé cet engagement. Et nombre des pays qui dépensent moins de 2% ont fait part d'ambitions, de plans, d'engagement à commencer à augmenter les dépenses en matière de défense. Nous avons vu que les choses bougent, puisque en 2015, les coupes ont été interrompues, et en 2016, il y a eu une grande augmentation. Et à présent, nous essayons de voir comment cela peut devenir pérenne, parce qu'il nous reste encore du chemin à parcourir. C'est une de mes premières priorités depuis que je suis secrétaire générale. J'ai soulevé la question du partage du fardeau et des dépenses de défense dans toutes les capitales, et je me réjouis de travailler avec le secrétaire à la Défense Matisse pour relever ce défi.
James Defense, quant au budget, est-ce que les alliés européens ont un argument pour accélérer l'engagement pris à Varsovie pour atteindre les 2% ou est-ce qu'il faut d'autres accords complémentaires? Deuxièmement, lorsque vous parlez de jalons nationaux, est-ce que vous parlez en particulier de jalons pour les dépenses en matière de défense au plan national?
Le mouvement est lancé et nous avons franchi deux étapes importantes. En 2015, on a mis fin aux coupes et en 2016, on a amorcé l'augmentation. Donc là, nous avons d'ores et déjà mis en œuvre les décisions de 2014, arrêter les coupes et augmenter progressivement et aller vers les 2%. Alors la décision maintenant, c'est comment est-ce que l'on peut pérenniser cette dynamique-là? Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis d'avoir tout un ensemble d'idées, comme par exemple les plans nationaux. Vous avez des pays qui disposent d'ores et déjà de ces plans nationaux avec des engagements très clairs, des feuilles de route pour savoir comment passer du niveau actuel de dépenses aux 2%. Après, il y a une question de possibilité de mesurer, de débattre des progrès, et ce, au regard des plans nationaux et des jalons nationaux, pour voir comment augmenter les dépenses. Tous les alliés ne disposent pas de ce type de plan-là. Ainsi, il faut voir si tous les alliés ont besoin de ces plans-là, prendre des décisions, décrire comment respecter un engagement, augmenter les dépenses et les promesses de dépenses à la suite des décisions de 2014, mais également nous permettre de faire le bilan des progrès au sein de l'OTAN. Mais après, quant à la nature propre du plan ou des plans, quel type d'examen. Pour le moment, c'est juste une idée qui est ressortie du débat d'aujourd'hui. Nous aurons besoin d'un peu de temps pour réfléchir à cette idée, mais les jalons seront liés aux dépenses.
Washington Post, Michael Birnbaum. Je voulais vous poser la question. Comment interprétez-vous ce que cela signifierait pour l'Amérique que de diminuer son engagement à l'égard de l'OTAN, comme l'a dit le secrétaire de la Défense Mattis aujourd'hui?
Vous savez, l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, ça va au-delà de simples paroles, il s'agit d'actes également. Les États-Unis augmentent leur soutien à la sécurité en Europe. Et aujourd'hui, nous constatons le déploiement de nouvelles forces américaines en Europe, et ce, pour la première fois depuis des années. Nous avons une nouvelle brigade blindée qui est en train de se déployer, et nous allons accueillir davantage d'équipements américains, d'exercices américains, de fournitures de matériel américain qui seront prépositionnés en Europe. Ce que je retiens de cela, c'est qu'il y a un engagement fort des États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, à la fois au niveau des paroles mais des actes. Également, la présence des soldats américains en Europe augmente et ne diminue pas. Et il y a également une volonté des États-Unis à continuer de renforcer, de se renforcer et de soutenir. Donc de garantir un soutien, et notamment dans la lutte contre le terrorisme, à savoir comment est-ce que l'OTAN peut constituer un outil en ce sens.
Commerçante, madame, au deuxième rang. Merci beaucoup. Au quotidien, Commerçante, Moscou. Demain matin, il y aura un débat sur la cybersécurité. Est-ce que cela sera lié à la Russie également? Merci.
So we are...
À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en train de renforcer nos cyberdéfenses. Cela fait un certain temps que nous y travaillons et nous sommes toujours en train d'adapter nos cyberdéfenses parce que la cybermenace évolue et change tout le temps. Nous avons vu une grande augmentation du nombre de cyberattaques et de cyberincidents. Ces attaques sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus intenses, et nous avons vu également des rapports émanant des pays alliés de l'OTAN qui décrivaient différents types d'attaques et différents types de menaces. Nous avons également eu des rapports selon lesquels la Russie était derrière certaines de ces attaques, et nous voyons qu'il y a un schéma qui revient systématiquement. Il y a une augmentation de 60% des incidents, des cyberincidents contre les réseaux OTAN, et ce, entre 2015 et 2016. Et c'est la raison pour laquelle Nous sommes en train de renforcer nos cyberdéfenses. Nous partageons les meilleures pratiques. Nous développons des technologies. Nous aidons les alliés afin de renforcer leur cyberdéfense. Nous procédons à davantage d'exercices. Et également, nous sommes en train de faire du cyber un domaine militaire, Air Terre Mer, 100 ans. Alors, certaines de ces attaques sont assez sophistiquées et les informations qu'elles ciblent démontrent assez clairement que c'est forcément un État ou un gouvernement qui est derrière l'attaque. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs rapports émanant des alliés disant que la Russie est derrière nombre de ces attaques.
Philippe Bled, Norwegian Broadcasting. Après la réunion d'aujourd'hui avec M. Matisse, et puisqu'il a sous-entendu qu'il y aurait un engagement réduit, si l'Europe ne renforce pas son engagement, pensez-vous qu'il est non seulement nécessaire de conserver la dynamique, mais de l'augmenter et d'atteindre un pourcentage supérieur dans les années à venir afin de répondre aux attentes de la nouvelle administration américaine?
Alors, jusqu'ici, ce n'a pas été à l'ordre du jour. On s'est plutôt concentré sur comment faire en sorte que l'on continue d'augmenter les dépenses en matière de défense. Et étant donné qu'on a enregistré une grande augmentation en 2016, je pense que cela a motivé tout un chacun à faire encore davantage. C'est pourquoi on s'est surtout concentré sur le comment de plans nationaux, d'engagements nationaux pour être sûr de mettre en œuvre ce qui est d'ores et déjà agréé. Et après, il faut garder l'esprit ouvert, il faut pouvoir se réunir autour d'une table et voir dans la pratique comment élaborer ces plans, comment élaborer différents types de jalons. Je crois qu'il est trop tôt pour entrer trop dans le détail et être trop spécifique comment développer cet outil, mais je me réjouis de mener un débat pour renforcer ou même encore appuyer cette idée de la mise en œuvre de tout ce qui a été agréé. Et j'ajouterais, si vous le permettez, ce ne sont pas les États-Unis qui disent à l'Europe « augmentez vos dépenses en matière de défense ». Ce sont 28 alliés, des chefs d'État et de gouvernement qui sont assis autour de la même table en 2014 et qui se regardent droit dans les yeux et qui se disent « oui, nous sommes d'accord, augmentons les dépenses ». Donc, il s'agit de mettre en œuvre une décision prise par 28 chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire, on va le faire tous ensemble. Alors, bien évidemment, toutes les pressions pour le faire sont bonnes.
Quotidien russe, une question sur le terrorisme. Ici, à l'OTAN, les gens disent toujours que l'OTAN n'est pas active en Syrie, car les États membres participe déjà à la coalition anti-Daesh. Qu'est-ce que l'OTAN peut proposer en tant qu'organisation militaire en Syrie pour lutter contre le terrorisme, ce qu'il ne pourrait pas faire seul? Une deuxième question au sujet de ce pôle régional récemment établi à Naples. Pouvez-vous nous dire quelle est sa dimension? Comment est-ce que le pôle va fonctionner sur la Syrie?
Mais tout d'abord, l'OTAN appuie la coalition, également par le biais de nos opérations aériennes au-dessus de la Syrie, grâce à nos AWACS, nos aéronefs de surveillance. Mais on n'a jamais demandé à l'OTAN d'avoir un rôle de combat ou même une présence en Syrie. Et quand je parle d'un rôle plus marqué de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme, ce que j'ai en tête, ce n'est pas de retrouver l'OTAN dans les opérations de combat. On peut le faire si on nous le demande, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que l'OTAN peut faire davantage lorsqu'il s'agit d'entraîner les forces locales, renforcer les capacités locales afin que quelqu'un puisse prendre la responsabilité de sa propre sécurité et lutter contre le terrorisme eux-mêmes. Alors, il y a des grandes différences, mais l'OTAN a une énorme expérience de la Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de l'Afghanistan. Et à chaque fois, le succès de l'OTAN, la réussite de l'OTAN, c'est que l'on a pu mettre fin aux opérations de combat et on a permis aux forces locales d'assumer la responsabilité de la stabilité dans leur propre région. S'il y a des enseignements à tirer de l'Afghanistan, eh bien, c'est bien qu'on aurait dû commencer bien plus tôt à entraîner les Afghans et leur permettre d'assumer cette responsabilité de leur propre sécurité. Récemment, je suis allée en Bosnie-Herzégovine. Nous avons une armée nationale sur place, entraînée par l'OTAN, et cela est clé pour la stabilité de ce pays. Nous avons aidé aussi les forces de sécurité du Kosovo, essentielles à la stabilité dans ce pays. Donc ma réponse est, vous voyez, qu'il n'y a pas eu de demande faite à l'OTAN pour combattre en Syrie. Mais je pense que pour toute cette région-là, nous pouvons faire davantage pour renforcer les capacités locales. Parce que quand Daesh est sorti de Mossoul, quand on leur impose une défaite à Raqqa, il faut bien que quelqu'un reste après pour conserver le statu quo, que les terroristes ne reviennent pas et que la paix dure. Et c'est exactement la raison pour laquelle on doit entraîner les forces locales. Et nous, on a une énorme expérience, justement, et on peut faire encore davantage. Le pôle à Naples, ce sera une pierre angulaire, dirais-je, de notre travail, un élément important dans nos efforts pour coordonner les choses, et ce pour le Moyen-Orient au sens large, l'Afrique du Nord, sans oublier ce qui se passe en Libye.
Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui le Pentagone a annoncé une réunion qui va se tenir demain à Bakou entre les hauts responsables militaires des États-Unis et de la Russie, le général Grismov et le général Danforth. Pouvez-vous nous dire si l'OTAN pu contacter l'état-major russe pour avoir une réunion avec lui? Est-ce que vous pensez que l'attitude du gouvernement des États-Unis va faciliter les contacts entre militaires, OTAN et Russie?
Bien, tout d'abord, je pense qu'il est important que cette réunion à Bakou ait bien lieu. Les États-Unis constituent le plus grand allié à l'OTAN et les alliés de l'OTAN, de manière bilatérale, développent des lignes de communication et mettre en place un dialogue avec la Russie. À l'OTAN, nous avons pu organiser deux réunions du Conseil OTAN-Russie où également nous avons abordé différentes questions militaires. Cela incluait les exercices, les présentations sur les exercices, la transparence militaire, la réduction du risque et d'autres questions. Militaires et nous avons mis en place ce type de contact dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de contact direct entre le général Gerasimov et le général Petr Pavel, mais je sais qu'il y a des travaux en cours pour essayer de mettre en place ce type de dialogue avec la Russie.
Voilà, nous n'avons plus de temps maintenant, mais nous nous retrouverons plus tard. Merci.